Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Bien avant qu'il n'ose sauter le pas, nous savions, nous, qu'il s'offrirait un jour la parenthèse enchantée d'un album. Lui dont les one-man shows se laissent depuis toujours infuser par la musique et qui se révèle désormais autant crooner qu'humoriste. L'album aussi réussi qu'ambitieux de Gad Elmaleh, puisqu'il s'agit de lui, est une déclaration d'amour au répertoire de Claude Nougaro et paraît sur le label de jazz le plus prestigieux au monde, Blue Note. L'album a pour titre « Danser sur moi » et franchement, on ne résiste pas à cette invitation.
Europe 1.
Bonjour, bienvenue Gad Elmaleh.
Bonjour, merci beaucoup. Vous danserez sur moi, vous danserez sur lui, avec moi ?
Ah mais avec tous les deux, il n'y a pas de souci.
J'ai dit vous dansez sur moi carrément, ça démarre fort.
Ça démarre fort, je plonge dans le bleu de ses yeux, qui est plus bleu que le bleu en fait de Repin.
Le bleu
Gad,
de la
mer. Gad, cher Gad Elmaleh.
Oui.
En préparant cette émission, j'ai découvert qu'il y a 11 ans, déjà peut-être 12, 2009-2010, à la question d'un journaliste sur la plus belle chanson d'amour jamais écrite, vous avez répondu comme ça spontanément à « Mademoiselle Maman hein, » de Claude Nougaro. Donc le répertoire de Nougaro a toujours été dans votre vie.
Toujours. Il m'a suivi, il m'a accompagné. Et c'est drôle, à des moments très précis de ma vie, depuis l'âge de 5 ans, où j'ai découvert Armstrong sur un tourne-disque à Casablanca au Maroc, chez mon oncle. Et à chaque fois, pour des raisons très précises, tristes, mélancoliques, joyeuses, il y a toujours eu Claude Nougaro qui m'a accompagné dans ma vie.
Mais alors pourquoi Mademoiselle Maman, qui n'est pas la plus connue des chansons de Nougaro, ne figure pas sur votre album ?
C'est très compliqué quand on doit choisir les chansons sur un album parce qu'on ne peut pas tout mettre tout ce qu'on aime, vous le savez. Et ça, c'est une... Mais il y a les incontournables, bah, il faut que les gens se retrouvent et retrouvent Claude Nougaro. Il y a aussi celles que j'ai voulu mettre qui ne sont pas très connues, je pense à Ça fait mal.
Ouais.
Un homme fou amoureux d'une femme ben, qui est beaucoup plus légère que lui et qui, comme il dit, Claude Nougaro, qui fait partie de la bande des libérés du mec. Tous mes amis me demandent qu'est-ce que tu fous avec. Et en fait, j'adore cette chanson et un peu comme cette chanson-là, il y en a d'autres que j'ai voulu mettre qui ne sont pas connues, donc je ne pouvais pas tout mettre.
Gad Elmaleh, votre amour de la musique, en fait, il puise effectivement dans l'enfance. Très tôt, vous avez appris à jouer du piano et adolescent, vous rêviez pianiste de jazz. En fait, ça s'est joué à peu de choses entre l'humour et la musique.
Vraiment. Je pense que si j'avais peut-être un peu plus travaillé, si j'avais été un peu plus assidu, discipliné, sérieux sur le piano, peut-être que j'aurais été un pianiste de jazz.
Ça se c'est peut-être la paresse qui a fait peser d'un côté plutôt que de l'autre.
À quelques croches. Ouais, je pense que j'ai pas assez travaillé et je pense que ce que me procurait l'humour, dans son immédiateté, l'amour que je recevais immédiatement avec l'humour, il était irrésistible.
Alors cet album, Danser sur moi, n'aurait peut-être pas vu le jour s'il n'y avait pas eu de confinement, puisque au départ, c'était un spectacle construit autour de l'univers de Nougaro qui devait être porté sur scène par vous. Or, lorsque le confinement a arrêté le projet en plein vol, eh bien les producteurs de ce show ont eu l'idée d'appeler le label de jazz le plus prestigieux au monde, Blue Note.
Oui.
Et alors là, vous nous racontez la suite.
Ben là, je dois ça à un producteur qui s'appelle Olivier Glusman, qui me dit « bouge pas, j'appelle Blue Note ». Et moi, je me suis dit « mais Blue Note, c'est quand même, c'est quoi ? C'est le Real de Madrid des,
des
jazzman. Je suis pas assez. » Il me dit « bouge pas ». Il me rappelle, il me dit « ils sont emballés, ils veulent le faire ». Je me suis dit « mais c'est fou cette histoire, c'est dingue ». Alors j'étais tellement flatté, bien sûr, mais je me sentais avoir une grosse responsabilité parce que c'est un gros label de jazz. Et là, j'ai invité des grands musiciens qui m'ont fait l'honneur d'être sur l'album. Ibrahim Malouf, à Biréli Lagraine, à Angélique Kidjo qui chante, à Thomas Bramery, Eric Lenini. Enfin, j'ai des très
Denis
très grands
Benaroc,
musiciens. Denis Benaroche.
Aux percussions.
Richard Galliano.
Galliano. Oui, la légende.
Ah ouais.
De l'accordéon jazz.
Ouais, j'adore. Vraiment, j'ai eu de la chance. On fait un accordéon voix sur rime tous les deux qui est très, très, très émouvant, qui est très fragile. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. On était en studio et Richard Galliano arrive et il dit à Eric Lenini, le réalisateur de l'album, « Je ne veux pas que Gad soit dans la cabine là-bas, loin de moi, j'ai pas envie. C'est une chanson que j'ai envie de faire avec lui et on veut la faire à deux comme un dialogue. » Et pour des raisons techniques, comme tu peux imaginer, bah, ils ont dit non, il doit être en cabine. Il a dit bah, « Dans ce cas-là, il faut que je sois collé à la cabine. Et je veux le voir en face de moi. » Et là, ils me mettent dans cette cabine, je suis en face de Richard Galliano qui me regarde avec des grands yeux comme ça et il a son accordéon sur les genoux comme ça. Et on s'apprête à jouer la chanson et là, il ferme les yeux. Pour jouer, se concentrer. Je dis, Richard, mais alors tu vois pas. Il me dit, je te vois pas, mais je sens tout. Et je sens que t'es là et je veux être proche de toi quand tu chantes. C'est génial.
Et
on a fait cette séance.
Un album réussi.
Il m'a laissé un message le soir, très bouleversant. Et il m'a dit qu'il était heureux d'avoir joué avec moi. Et il m'a dit un truc très, très touchant. Il m'a dit, il y en a qui chantent juste et il y en a qui chantent vrai.
Ah.
Alors, ça m'a touché. Peut-être ça voulait dire que je chantais faux, je ne sais pas.
Non, mais parce que... Alors là, vous évoquez effectivement la crème des musiciens de jazz qui ont,
la
avec
crème
vous,
de la crème,
de la crème, façonné cet album baptisé Danser sur moi. Mais vous, précisément, Gad, quand on entre en studio pour reprendre du Nougaro après Nougaro et en livrer autre chose, forcément, mais en restant quand même relativement fidèle, on est dans quel état d'esprit ?
On se dit qu'il faut certainement et surtout pas l'imiter, parce que ce serait complètement ringard d'imiter Claude Nougaro et ridicule, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas non plus faire une chose qui soit trop loin, parce qu'il faut rendre hommage et continuer à lui attraper cette main qu'il me tend depuis que je suis gamin, Claude Nougaro, et me réinventer avec mes musiciens. On se dit, on va respecter ce qu'il a fait et on va réinventer. C'est pour ça d'ailleurs que c'était important pour moi d'aller voir Hélène Nougaro, sa femme, et de lui dire, voilà le projet que j'ai. C'était important pour moi, non pas d'avoir l'autorisation, mais d'avoir une forme de bénédiction, même par superstition. Je suis quelqu'un de très superstitieux d'ailleurs. Juste avoir le, je sais pas, une espèce de vas-y, fais-le, bon courage. Et elle m'a touché. Elle m'a dit, je connais votre sincérité par rapport à Claude depuis des années. Et allez-y, et c'est cool. Et un de ses titres préférés, c'est Nougaillor qu'on a réadapté, qui était très dur à réadapter parce qu'il avait une sonorité un peu années 80, synthé et tout.
Oui.
Et c'est une grande réussite grâce à Jérémy Ababou, le pianiste.
Et parlons de votre voix, parce que le traitement de la voix, la diction, le phrasé, les scansions, les rythmiques qui sont vraiment très subtiles. Il y a un groove dans cet album qui est très très épuré et qui est d'une totale modernité. Vous l'avez pensé, voulu comme ça, ou vous avez été dirigé ?
D'abord, ça me touche que vous l'ayez entendu comme ça, et ensuite je l'ai abordé, je pense, avec de l'humilité, avec c'est un monstre, c'est énorme, mais je vais y aller avec du travail. Et j'ai été aidé par des grands musiciens, par un grand réalisateur, par Blue Note. J'étais pas tout seul, heureusement.
Là, c'est le moment où il fait le modeste.
Oui, Gad Elmaleh,
le crooner.
Vous avez
donc
écouté le moment modeste.
Le
attention,
crooner.
Maintenant, il se la pète moment.
Voilà, exactement. Il peut se lâcher, mais
vous
il a le droit,
sur
il le mérite.
Hein, il se la pète moment.
Voilà. Alors, le crooner était caché derrière l'humoriste, même si sur scène, on devinait sa présence. Cette fois-ci, le crooner est passé devant. Pour le temps d'une parenthèse ou pour davantage ?
J'aime la croonance. J'aime la croonerie. C'est une parenthèse pour l'instant. Est-ce que je ferai un autre album ? Peut-être. C'est mon premier album. C'est certainement pas mon dernier. Je pense que c'est,
voilà,
mais c'est
de
l'album
réponse
de la maturité.
Non, ça c'est trop facile, j'en veux pas. Il faut conclure autrement.
Ce serait drôle que ton premier album il soit de la maturité. Est-ce que moi je pense que c'est. Il n'y a pas d'âge ni de moment dans la vie ni dans la carrière pour démarrer une chose qui te rend curieux, passionné, excité. C'est le cas pour Nougaro. Si demain j'ai envie de faire d'autres reprises ou de faire des chansons plus originales ou d'aller avec un big band chanter, je le ferai. Je suis très libre, très très libre. Et je suis content de ça, voilà. Ça met beaucoup d'années avant d'être libre, donc profitons-en. Vieillir, d'accord, mais pas à n'importe quel prix.
Et nous, le public, on dit tant mieux. Alors, Gad Elmaleh, on part maintenant au Maroc, on va aller secouer un petit peu les souvenirs. Je plante le décor, vous êtes enfant, vous vivez à Casablanca, et Thierry Le Huron, que vous avez découvert sur des cassettes VHS, car vous n'avez pas accès aux chaînes françaises, Thierry Le Huron, donc, va se produire au théâtre municipal de Casa. Alors, vous suppliez votre papa d'acheter des billets, il est d'accord. Le jour du spectacle, il se rend donc au théâtre municipal, il entre dans le théâtre, il va à la billetterie, et puis, vous attendez comme ça dans la rue, il ressort votre père sans billets, et il vous dit cette phrase, absolument prodigieuse, il vous dit, c'était trop cher pour un mec tout seul sur scène. Je voudrais savoir, trop cher pour un mec tout seul sur scène. Vous avez repensé à cette phrase quand
même,
vous avez fait plus tard les plus grandes scènes tout seul.
Même de l'entendre, cette phrase 35 ans après, ça me touche, ça m'émeut, ça m'énerve, ça me fait tout. C'est incroyable parce que c'était pas grave en soi, mais ce jour-là, c'était la pire des choses qu'il m'avait dites. Lui, il n'avait pas mesuré l'importance, l'urgence, le trésor que c'était pour moi, il ne l'avait pas mesuré. D'ailleurs, après, comme il a vu que j'avais pleuré, que j'étais vraiment pas content, il m'avait amené voir un spectacle de danse contemporaine, une troupe qui venait de je sais plus quel pays d'Europe de l'Est.
Et vous étiez encore plus en colère.
Je comprenais pas. Il m'a dit c'est beaucoup moins cher. Oui, c'est beaucoup moins cher.
Parce que là, ils étaient 30 sur scène.
Ouais, non, c'est. Vous pensez que c'est parce qu'ils étaient plusieurs. Mais c'est vrai que cette phrase de c'est trop cher pour un homme tout seul sur scène, est-ce que c'est pas sur cette phrase que je me suis construit, quoi ?
Je vous pose la question.
C'est le moment de psychanalyse.
C'est le moment de psychanalyse, voilà.
Dit, c'est un
mélange. Mais ça peut l'être. C'est un mélange de frustration et de colère, quand même.
Complètement.
Mais alors, je voudrais savoir, pourquoi l'enfant que vous étiez, Gad Elmaleh, voulait à tout prix voir Le Luron sur scène?
Parce qu'il me fascinait, parce que je recevais des cassettes VHS de France, qu'au Maroc, quand j'étais gamin, les programmes n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui à la télé marocaine, et on n'avait pas la télé française, on ne captait pas. Et cette cassette était un graal, était un trésor, était un sésame, était quelque chose vraiment de tellement précieux. Je rentrais de l'école et je ne la regardais pas comme une émission de télé, je la regardais comme un document que je consultais chaque jour. Et là où j'étais fasciné, c'est que je regardais un artiste qui faisait des imitations de gens que je ne connaissais pas, et je disais à mon père, il le fait trop bien. Et il me disait, mais il fait trop bien qui? Mitterrand? Tu ne sais pas qui est Mitterrand? Je ne savais pas qui était Mitterrand, j'ai 6 ans, j'habite à Casablanca. Et il fait bien Giscard, mais tu ne sais pas qui sont ces gens-là? Non papa, mais je suis sûr que c'est tellement proche, c'est tellement ça. Le talent de Thierry Le Luron, la puissance comique, l'incarnation était telle qu'il me, attention, convainquait.
Bon, et alors, vous parlez de monter sur scène, mais Gad Elmaleh, monter sur scène face à un public, vous saviez ce que c'était, puisque vous aviez 7 ans, paraît-il, quand votre papa, qui était commerçant mais qui se produisait comme mime amateur dans des petits théâtres de Casa, vous avez enrôlé. Vous faisiez quoi à ses côtés?
En fait, je présentais les numéros avec un panneau qui disait le titre du numéro qui allait arriver, puisque c'était de la pantomime, donc il n'y avait forcément et logiquement pas de parole. J'étais celui qui installait l'humeur en montrant si, par exemple, il y avait un mime qui s'appelait Le Mendiant. C'était un homme qui mendiait alors sorti d'une boulangerie. J'avais une pancarte avec écrit Le Mendiant et je prenais l'attitude qui allait avec cette situation.
Voilà. Et vous étiez tellement heureux d'être sur scène que vous preniez votre temps avant de retourner en coulisses,
exactement.
C'est ça? Vous essayiez de voler la vedette à votre père.
Un peu. Et la pire des punitions que j'ai eues dans ma vie, je m'en rappelle, c'était vraiment tragique pour moi, c'est le jour où mon père m'a privé de spectacle. Il m'a dit, tu ne feras pas le spectacle, tu as fait une bêtise ou tu as mal travaillé à l'école, je ne sais plus ce que c'était. Eh bien, tu ne feras pas le spectacle dimanche. Et là, c'est le pire des souvenirs. Ça a été une torture pour moi. C'était cruel qu'il ait fait ça.
Vous parlez aussi bien l'arabe que l'hébreu.
Que l'anglais et que le français.
Oui.
Je suis en train d'apprendre l'italien.
Ah oui.
Vous parlez combien de langues?
Moi,
j'en parle. L'anglais, ça c'est sûr.
Moi, j'en parle 2,5. Voilà.
2,5. La demi. La demi, c'est des débuts
quand
de phrases.
Quand vous m'interviewerez, je vous répondrai sur quelle langue.
Alors,
je continue, cher Gad. Gad Elmaleh, il y a une chose réellement qui m'intrigue. Pourquoi, parce que je continue de dérouler le fil comme ça de votre histoire, pourquoi à l'âge de 17 ans, avez-vous décidé de démarrer votre vie de presque adulte, on va dire, dans un pays où il fait moins 30 l'hiver? Pourquoi Casablanca, Montréal, et pas Casablanca, Paris, ou Casablanca, New York, ou Casablanca, Los Angeles?
Il y a une erreur dans vos... Il y a une information qui est fausse dans ce que vous dites.
Alors,
c'est qu'il fait moins 40.
J'ai pas voulu froisser nos amis canadiens, c'est pour ça que je me suis arrêté à moins 30.
Écoutez, je pense qu'il y avait une forme de rêve américain en français accessible. Et il y avait le Québec qui ouvrait la porte à l'immigration de manière peut-être plus facile que certains pays d'Europe. Et il y avait un rêve d'Amérique, mais accessible en français. Et il y avait aussi des membres de ma famille qui avaient déjà fait le chemin, fait le voyage. Voilà, donc la diaspora était présente et elle pouvait me tendre la main.
Pour accueillir le
jeune renvoyé de toutes les écoles de Casa.
Attendez, renvoyé de toutes les écoles de Casa, mais au Québec, Gad Elmaleh, vous avez commencé des études en sciences humaines et puis vous avez fait des études de sciences politiques, surtout à l'Université de Montréal.
Oui.
Vous projetiez dans quelle vie?
À la base, je voulais peut-être éventuellement faire l'école de droit. J'ai raté le concours parce qu'il y a un concours à l'entrée à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et donc, il fallait faire un genre, pas une prépa, mais autre chose. Donc, une espèce de master ou de degré, de diplôme. Et puis, j'étais vers sciences politiques parce que ça m'intéressait. J'étais curieux. Plus l'histoire, plus la sociologie politique, plus tout ça que vraiment la politique même des États. Et c'était très intéressant. J'étais pas mauvais.
Vous êtes sorti diplômé.
J'avais des bonnes notes.
4 ans de sciences politiques.
Non, un peu moins.
Un peu moins. Bon.
Mais voilà. Et puis, non, après, la politique ne m'intéresse pas beaucoup.
La prépa, l'école de droit, il y avait un oral ou il n'y en avait pas?
L'école de droit, il n'y avait pas d'oral, malheureusement.
C'est ce que j'allais vous dire avant de faire une courte pause. On se retrouve tout de suite avec... C'est un bonheur, Gad Elmaleh. C'est à vous, dit mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
C'est avec Gad Elmaleh qu'on se balade cet après-midi, et c'est mieux que bien. Gad Elmaleh qui vient de sortir un album baptisé « Danser sur moi », un album qui est une véritable déclaration d'amour au répertoire de Nougaro, un album enregistré avec la crème des musiciens de jazz et qui sort sur le label magique Blue Note. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire là ?
Ah non, moi je pense qu'on est bon là.
Là on est bon, on peut y aller.
Ah moi je pense qu'on a toutes les infos, je me reconnais tout à fait dans ce projet. Ah non, non, mais très bien.
Bon, alors,
et avec
on plonge...
cette voix en plus, c'est très très bien.
Bon, alors on plonge dans l'interview. Cher Gad Elmaleh, vous dites, pour faire rire un
vous
public...
Vous m'écrivez une lettre là.
Non, non, mais là oui, parce que Paris, le... je lance la musique, mais là on va parler d'abord de l'humour et des one-man shows.
Avec
dites,
plaisir.
Pour faire rire un public, il ne faut pas en avoir envie, il faut en avoir besoin. Expliquez-nous. Vous avez déclaré ça au journal Le Monde.
Ah oui, alors ça c'est la fameuse déclaration en 98.
Il faut en avoir besoin. Qu'est-ce qui se cache derrière cet aveu ?
Je pense que faire rire, c'est-à-dire, c'est pas l'humour, mais faire rire, c'est tellement une chose qui procure un sentiment physique déjà, physique. On va sur scène, quand on fait rire, c'est physique. C'est-à-dire que immédiatement, quand on a des rires, on se sent aimé, on se sent accepté. Je crois même que la plupart de mes collègues humoristes ne me contrediront pas. On a fait ce métier aussi pour être regardé, pour être aimé, pour qu'on nous dise « Ah oui, ton observation, on la partage. Ah oui, t'es un bon mec. Ah oui, tu... » Je pense que plus que d'autres expressions artistiques, hein, que ce soit acteur, que ce soit comédien de théâtre ou danseur, je pense que l'humoriste, il a besoin de cette... cet amour, cette approbation. Et moi, quand je fais une vanne sur scène, surtout une nouvelle et que les gens rient immédiatement, je compare souvent ça à une étreinte. J'ai l'impression qu'on me prend dans les bras, qu'on m'accepte, qu'on me dit « c'est bon » et c'est trop trop bon.
Mais alors, je continue de creuser un petit peu le métier d'humoriste. Vous dites « le métier d'humoriste quand même nécessite un curieux mélange d'humilité et d'arrogance. » Car enfin, bah, monter sur scène seul, pour faire rire la foule, c'est prétentieux.
Presque, c'est mégalo quoi. Quand tu te retrouves devant des scènes avec 5 000, 6 000, 7 000 et que tu es seul, c'est trop cher pour un homme seul, et que tu es seul, c'est un mélange à la fois de grande fragilité et de mégalomanie, c'est bizarre.
Et il faut un cerveau qui décadre les choses pour
qui
faire du stand-up, n'est-ce pas ? Il faut être rapide et il faut savoir tordre la réalité.
Vraiment, et qui va vite, et qui regarde, et qui observe, et qui soit tout le temps en recul. Et qui soit... D'ailleurs, je ne pense pas qu'un humoriste dans la vie soit... pas rapide, n'est pas une capacité d'analyser les situations très rapidement. Et l'humour, c'est avant tout un langage, c'est avant tout une manière de regarder la vie. C'est pas faire le con, c'est pas faire des blagues. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'un humoriste, c'est avant tout un sociologue, c'est un observateur. C'est quelqu'un qui fait un gros plan sur ce que toi, ben, tu vois en plan large.
Alors, je continue de dérouler le fil de votre histoire, Gad Elmaleh. En 92, après pas tout à fait 4 ans d'études de sciences politiques à Montréal, mais presque, vous faites vos valises pour Paris. Alors là, sur quelle impulsion ?
Parce que j'avais envie d'être comédien. Je ne savais pas trop si j'allais faire du cinéma ou pas. Ce n'était pas clair pour moi. Je voulais faire ce métier en français. J'avais décidé, malgré le fait d'être en Amérique du Nord, que je voulais le faire en français. Mmh. Et je voulais le faire en France. En français, c'est en France, c'est les auteurs, c'est Molière, c'est le théâtre, c'est le rêve. Et après, il fallait que je fasse une école. Donc c'est Paris. C'est pas que Paris, la France, mais sur une formation d'acteur, j'ai envie d'aller à Paris quand je vivais au Québec et je viens du Maroc. Et après, c'est le cours Florent.
Bah voilà.
Après, ça se resserre, attention.
La classe libre.
La classe libre, le concours, la bourse.
Et qui est le grand prof à l'époque
et
dans
bourse,
la classe libre ?
La bourse d'études à l'époque.
Moi, c'est Isabelle Nanty.
Isabelle Nanty. Mais Francis Huster, je ne l'ai pas eu. Il y avait Francis Huster, il y avait Isabelle Nanty, que je n'ai pas eu comme prof, qui a été mon metteur en scène après.
D'accord.
Et j'ai cette bourse d'études. Vous imaginez, vous arrivez. Ouais. Jeune, à Paris, 20 balais, même pas.
Mais comment on l'obtient, cette bourse-là ?
Un concours. C'est le seul concours que j'ai réussi dans ma vie.
Et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour ça ?
Des scènes, jouer la comédie. Et François Florent m'a dit « J'aimerais vous voir briller un jour dans cette maison. » C'est la plus belle phrase qu'on m'ait jamais dite. Il m'a donné confiance à tout jamais. Mais vraiment, c'est... je m'en rappellerai toute ma vie de cette phrase qu'il m'a dite.
Alors, j'ignorais que vous aviez été l'assistant d'Eli Kaku.
Oui, je l'ai bien connu. J'étais très proche de lui. J'étais pas son ami au tout début, j'étais un genre de petit employé stagiaire. Et puis il m'a aidé, il m'a tendu la main. Au début, il voulait juste. Enfin, il voulait, c'est moi qui traînais à côté de lui. J'étais fasciné, c'était une star.
Mais oui.
C'était une énorme star. Et j'étais son poursuiteur. Et quoi de mieux que d'être poursuiteur pour poursuivre, suivre,
et voilà.
Observer, et mettre un rond de lumière sur l'artiste. Et j'ai mis de la lumière sur Eli Kaku tous les soirs et j'en suis très très fier.
Et alors, les premiers sketchs, Gad Elmaleh, vous les avez testés où et comment ?
D'abord, ils ont commencé dans l'enfance, où je les testais en famille. Mais ensuite, je les testais au Théâtre Trévise. Et ensuite, l'entourage le plus proche, hein, je pense que c'est là-dessus qu'on teste les sketchs vraiment. Et puis, on a des repères. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec ma sœur. Je sais que si elle rit, ben, le public va rire 1000 fois plus. Et c'est comme une espèce de signal que j'ai. Mais si elle me dit « c'est pas drôle » ou alors si elle me dit quelque chose d'encore plus intéressant... on est rare à avoir des gens comme ça, me dit, elle va me dire, peut-être qu'ils vont rire, mais c'est pas un bon rire. Tu mérites mieux, et c'est trop facile. Et tu, non, il faut que tu fasses plus. Alors, elle me tire vers le haut, elle m'amène vers quelque chose de plus rare, en tout cas.
Mais à cette époque-là, il faut quand même qu'on parle, parce que là, il s'agit vraiment du début de votre carrière, il faut qu'on parle d'un personnage étonnant qui n'avait absolument rien à voir avec le show business, puisque il faisait de l'importation de vêtements. Et il a été le premier, paraît-il, concrètement à miser sur votre talent en réservant le 10 décembre 1994 à Montréal. Donc vous êtes retourné sur vos terres canadiennes. Il a réservé donc la salle du cabaret juste pour rire. Alors il paraît qu'à l'époque, quand il vous a proposé ça, bah, vous n'en reveniez pas. Mais Michel Azoulay, c'est son nom, vous a expliqué qu'il croyait tellement en vous, en votre talent, en votre virtuosité, qu'il était même prêt à vendre lui-même les billets.
C'est très touchant que vous me rappeliez cette anecdote-là. Et ça me fait plaisir d'en parler parce que c'est les gens de l'ombre qui nous ont tendu la main un jour, avant même les gens de télé, de médias, puisque même quand quelqu'un vous tend la main dans les médias, ben vous êtes déjà dans les médias, vous êtes dans cet espace-là. Mais cet homme-là, Michel, à Montréal, il m'a dit « tu vas jouer ». Et comme il n'avait pas, c'était pas un homme du métier, il n'était pas du... Il faisait des choses avec son cœur.
Mais il n'avait pas les connexions.
Non, c'est pas ça. Mais il m'a dit, j'ai réservé le théâtre, donc c'est bon. Je lui ai dit, mais c'est bon, mais je vais jouer quoi? Il m'a dit, ben, joue ce que tu fais. Tu sais, quand tu viens à la maison le vendredi soir, tu fais des trucs, là, tu fais des conneries, eh bien, tu feras ça. Je lui ai dit, mais Michel, mais il faut répéter. Mais il m'a dit, tu vas répéter. Mais t'es au mois d'octobre, c'est le 10 décembre, on est en 94. Ben oui. Et comment je... Ben, il m'a dit, tu prépares, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et là, mais avec qui on va vendre? Il me dit, on va acheter les billets. S'ils les achètent pas, on les achète pas. Non, mais c'est un cadeau, cet homme. C'est un cadeau. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien un jour. Voilà, il y a des. Parfois, quand je vois des artistes brillants, je leur tends la main, des jeunes, parce que il faut redonner ça, quoi.
Alors, ce soir-là, ça s'est extrêmement bien passé. Oui. Et votre destin
quand même bloqué
a été
de partout.
Scellé. Bon, ça, on s'en moque. En tout cas, dans la salle, ça a hurlé de rire pendant 1h30 et le destin était scellé.
Oui, vraiment. C'est là que ça a démarré. Waouh. Je me sens vieux et content.
Nous, on est carrément heureux que vous
jeune
soyez là.
Heureux.
Ça y est, je l'ai emprisonné, ligoté sur son fauteuil. Il ne peut pas bouger. Mes amis auditeurs, auditrices d'Europe 1, vous restez
avec
nous.
Je suis en otage.
Il est mon otage, Gad Elmaleh. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Il y a quelque chose du phrasé jazz épuré de Mélodie Gardot dans le groove de Gad Elmaleh, qui chante, entouré des meilleurs musiciens de jazz, le répertoire de Claude Nougaro dans un album formidable baptisé « Danser sur moi ». Et cet après-midi, eh bien, on parle musique, on parle stand-up, mais pas que. On va parler cinéma maintenant, Gad. Bon, alors, malgré les succès de Chouchou, La doublure de Francis Weber, Hors de prix, j'ai adoré, avec Audrey Tautou, Coco, que vous avez réalisé, La rafle, la série des films américains sous la direction de Spielberg et de Woody Allen, ou encore Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Sophie Marceau, eh bien, vous dites avec presque une déception palpable par rapport à la scène, vous dites, le cinéma, c'est le contraire du ressenti immédiat. La magie n'a donc pas totalement opéré entre le cinéma et vous ?
En fait, c'est des moments dans ma vie. Je pense que j'avais fait beaucoup de films, beaucoup de comédies, et le live, le spectacle vivant m'apportait une telle jubilation, une folie de transe, quoi. Cet engagement comme ça, que je retrouvais plus ça au cinéma, que j'ai fait un peu moins de films. Mais j'ai pas complètement laissé tomber parce que je continue à lire des scénarios. J'ai envie d'y retourner, j'ai vraiment envie d'y retourner. J'attends vraiment de tomber sur quelque chose qui me plaît, qui m'éclate. Mais à chaque fois, je me dis, j'aimerais que le rôle, que la situation soit à la hauteur de ce que je vis sur scène. Tu sais, c'est tellement fort ce qu'on vit sur scène. J'aimerais au cinéma tourner avec des gens que j'aime, un personnage fort, une situation forte.
Bon, bah, faut écrire, produire le film, le réaliser.
Exactement.
Et le jouer.
Exactement.
Voilà. Alors, cher Gad, vous avez tourné sous la direction de Steven Spielberg pour les
Woody
aventures
Allen.
De Tintin et Woody Allen pour Midnight in Paris.
Deux fois, voilà. Et pour une série aussi avec Woody Allen.
Voilà, ça doit être euphorisant, ça,
qui s'appelait Crimes in Six Scenes sur Amazon. C'était complètement dingue. J'ai une grande admiration pour Woody Allen.
Donc vous y avez trouvé votre compte, là, ou
oui.
Pas vraiment encore.
Oui, parce qu'il y avait une excitation de la nouveauté, de rentrer dans l'univers de Woody Allen, on va dire que le fait même de tourner avec lui, l'excitation, le fait d'être fan, le fait d'être... avoir été alimenté par tous ces films, je les ai vus et revus. Donc forcément, j'étais très excité. Cette excitation, elle compte avant de tourner avec un metteur en scène. Donc oui, là, j'y trouvais mon compte totalement, quoi.
Alors, On va traverser avec vous l'Atlantique et on va cette fois-ci ouvrir un nouveau chapitre quand vous avez conçu ce rêve fou, mais que vous avez atteint, de faire rire l'Amérique. L'aventure, elle a démarré à peu près en 2014 et en 2019, eh bien, vous étiez affiché en format géant partout sur les murs de Times Square à New York. Et les talk shows les plus populaires d'Amérique, comme ceux par exemple de Jimmy Fallon, n'avaient plus de secret pour vous. Mais l'aventure américaine, Gad Elmaleh, c'était un défi entre vous et vous. Un défi entre vous et le métier français, je ne sais pas, ou c'était un pur fantasme de rêve américain.
Moi et moi.
Entre vous et
le
vous.
Le challenge absolu, le défi, sortir complètement du confort que j'aime, hein, que j'adorais, le public, qui les salles remplies en France. Mais je me suis dit à un moment donné, j'en rêve depuis tellement longtemps. C'est tellement quelque chose qui est en moi. Je ne veux absolument pas vieillir ou mourir, puisque normalement c'est la logique, sans l'avoir fait. J'ai envie, je fais.
Il l'a fait.
Voilà.
Il l'a fait, mais d'abord, eh ben, il a fallu travailler la langue.
Oui.
Et alors là, vous dites que bien plus que l'accent, avoir le bon accent, ce qui est essentiel pour faire rire le public américain, avec de bonnes vannes bien sûr, c'est de savoir bien placer l'accent tonique.
Ouais.
Du coup, ça n'a rien à voir avec la manière de jouer le même sketch en français, c'est ça ?
Ah oui. Parfois, ma prof d'anglais venait, je disais, j'ai un problème, Julia, parce que hier, j'ai fait la vanne, elle a marché, elle a cartonné. Je jouais à Joe's Pub tous les soirs, c'était vraiment un petit théâtre à New York, où j'ai rodé le spectacle. Et je lui dis, bah, hier soir, ça a cartonné, c'est la même vanne, et ce soir, ça ne marche pas. Elle me dit, ok, je viens demain, je vais voir. Et là, je sors de scène, elle me dit, bah, c'est normal. Puisque tu n'as pas mis l'accent sur la bonne partie du mot. Donc les gens ne comprennent pas. Et puis c'est dans notre culture, si on ne met pas l'accent sur... Tu vois, si tu dis airport ou au lieu de airport, ben il ne rit pas. Parce que là, dans la comédie, si tu as besoin de tendre l'oreille pour...
Oui, s'il faut décrypter déjà.
Non, ben, ça ne va pas. Il faut que ce soit immédiat. Elle m'a appris ça. Et...
Mais pour l'intégrer, il vous a fallu beaucoup de temps.
Il m'a fallu du temps, beaucoup de travail. Et il a fallu qu'un jour, je comprenne que parler en anglais et parler anglais, c'est pas la même chose. Parce que quand on est francophone, on parle en anglais, on traduit, on pense qu'on parle... Mais que le jour où on parle anglais, c'est qu'on maîtrise la langue, les idiomes, les concepts linguistiques, et on parle l'esprit de cette langue.
Mais alors, devant les Américains, vous jouiez vos sketchs français ?
Non.
Ou, bah oui, parce que ce qui fait rire
tout.
Un Français
ne
fait pas
non.
forcément rire un New-Yorkais ou un mec de Dallas.
Non, j'ai créé du matériel spécifique pour les États-Unis qui comportait les éléments de ce voyage. Et donc, c'était un peu autobiographique. Il fallait que je leur raconte en tant que Français. Voilà ce que je vois. Je leur parlais des différences. Ils avaient besoin de ça parce que... Humoriste en anglais aux États-Unis, si t'as pas une spécificité qui les change un peu et qui les fait un peu voyager, bon, ils ont inventé le stand-up, ils ont ce qu'il faut là-bas, hein, ils nous attendent pas.
Mais en même temps, il faut tenir compte de leur code, parce que les Américains, ils sont assez touchy, si, c'est-à-dire susceptibles,
oui.
quand on commence à parler de sexe,
oui.
alors que nous, par exemple, c'est quand on parle d'argent.
C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a cette crispation aux États-Unis dès qu'on parle même du couple, de la sexualité, il y a une crispation, on se dit « oulala, qu'est-ce qu'il va dire ? Vite, il va dépasser. » En France, ça peut être l'argent. Oui, l'argent, ça peut être un thème de crispation immédiate. Et on n'ose pas rire de ça, on n'ose pas rire avec ça.
Alors Gad Elmaleh, je pose cette question à vous qui remplissiez Bercy à craquer au début de l'aventure américaine. Les comedy clubs où les gars écorchent votre nom en vous présentant
ouais.
et où vous êtes payé 100$ la soirée pour faire rire des gars qui sont max. Parfois, 60, pour faire rire donc des gars qui sont venus boire des bières. Ça, vous avez connu.
Ah, j'ai connu, j'ai bien connu. Et je suis descendu dans ces caves où on a écorché mon nom et on m'a donné 100$ pour faire 4 passages. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ces 100$, je les aimais beaucoup.
Mais quand même, ça a représenté tout ça beaucoup de solitude. Il y avait peut-être un goût d'exil. Il y avait la concurrence avec des codes que vous n'aviez pas encore assimilés. Beaucoup de remises en question.
Beaucoup. Et je pense que le jour où j'ai compris que ce n'était pas une fin en soi, c'est le jour où, en sortant du talk show que je rêvais de faire de Jimmy Fallon,
ouais.
je suis rentré à la maison et j'ai fait un FaceTime avec mon gamin qui avait 5-6 ans et qui me manquait trop et je ne pouvais pas partager. Et après, j'ai appelé mes potes, après j'ai appelé ma famille, j'ai passé une heure ou deux au téléphone à appeler tout le monde pour leur raconter. Et je me suis dit, t'es bien, tu fais des choses que t'aimes, mais t'es pas heureux parce que t'es trop loin d'eux. Et je suis rentré aussi pour ça, parce que j'ai deux enfants, il y en a un avec qui c'est plus simple, on va dire, parce qu'il a 20 ans, et j'en ai un autre aujourd'hui qui a 7 ans. Quand ils ont 7 ans, vous savez ce que c'est. On ne peut pas vivre à distance, on ne peut pas être papa à distance. C'est pas possible. Le télétravail, oui, pas le télépapa.
en tout cas avant de refaire vos
deuxième
valises.
Slogan.
Deuxième slogan. Avant de refaire vos valises, après avoir fait quand même, il faut le dire, une tournée de 164 dates à travers les États-Unis, ouais. Bah vous avez terminé en apothéose au Carnegie Hall. Ouais, ils étaient ça, là, vos parents ?
Ils étaient là, mes parents. D'ailleurs, il y a eu un truc très marrant.
Dites-nous.
J'ai dit à ma mère que j'ai joué à Carnegie Hall, elle ne savait pas ce que c'était. Elle rentre dans le Carnegie Hall, elle voit des photos de Frank Sinatra. Elle vient dans ma loge, elle me dit « t'as intérêt à être bon ». Alors là, ce genre ne nous fait pas honte. Mais c'était très intéressant parce que moi, j'ai vécu l'Amérique vraiment... j'étais dans des villes qui n'étaient pas les grandes villes.
Oui, vous avez joué à Pittsburgh, avez joué à Portland.
Ah ouais.
Enfin, c'est quand
j'étais vraiment dans des villes qui ne sont pas les villes East Coast, West Coast qu'on connaît, New York, je ne sais pas, San Francisco, Los Angeles.
Où il y a des Français.
Non, il n'y avait pas d'expats.
Voilà.
Alors, il y en avait quelques-uns parfois et c'était super. Ce n'est pas que des expats français, c'était très intéressant. Il y avait des Africains, des Libanais, des Belges, bien sûr des Français, des Marocains. Mais parfois, il y avait des villes où il y avait 100% d'Américains qui ne me connaissaient pas. Je jouais dans des centres commerciaux, dans des petits comedy clubs. C'était une grosse tournée. J'étais seul. Et c'est abrupt, vous savez, les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mélancolie, de solitude dans cet hôtel avec cette machine à glaçons dans le couloir. Moi, je trouve qu'en France, même quand on va dans un petit hôtel de province et qu'on est en tournée, même si on n'est pas connu, il y a une rondeur, il y a un charme. On peut dialoguer avec le réceptionniste. Si la cuisine est fermée, on peut peut-être le persuader, peut-être
là, le réceptionniste,
un petit truc.
Même si vous mettez le bon accent tonique, il ne vous répond pas.
Là, il s'en fout. C'est fermé. C'est ouvert. Le mini-bar, pas de bar. C'est très carré. Alors, il y a des choses que j'admire aux États-Unis. Hein, je ne crache pas dans la soupe. Mais je dois dire que la rigueur, ce n'est pas une rigueur, c'est une rigidité parfois, elle ne me convenait pas. Et ça m'a fait tellement de bien quand je suis revenu.
Moins elle est. Et encore.
Et alors là, avec les dates aussi, n'en parlons pas. Alors là, les rencontres amoureuses,
c'est encore un autre chapitre. Je ne sais pas si nous allons l'aborder.
Nous ferons une émission spéciale.
Spéciale, voilà, c'est promis. Mais qu'on est bien cet après-midi sur l'antenne de repas. En plus, on a avec nous un programmateur musical absolument génial qui nous propose d'écouter un extrait du nouvel album de Gad Elmaleh.
Au hasard, l'album
qui a pour titre « Danser sur moi ». C'est son album favori en ce moment. Et il nous propose d'entendre...
Nouga York.
Oh, la bonne idée.
J'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Dès l'aérogare, j'ai changé d'époque. Comment ça démarre sur les starting blocks? Gare, 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 là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard. C'est de la merloc. Sera-ce la bagarre? Ok, je suis ad hoc. J'aurai le gros cigare en or, les pare-chocs. De l'aérogare, j'ai senti le choc. Faut rentrer dardard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc, une pluie de dollars, ici Nouga York. Ici superstar, j'suis gonflé à bloc, c'est l'enfance de l'art. C'est le phalacoque. À moins qu'un lascar, au détour d'un bloc, et sans crier gare, me découpe le lard, façon jambon d'York.
Nouga York, par Gad Elmaleh, mon invité qu'on retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
On l'attendait, l'album de Gad Elmaleh. Il est là et plus que réussi, un album hommage au répertoire de Claude Nougaro. Il a pour titre « Danser sur moi ». Et avec Gad, eh bien, on agite les souvenirs, on refait le monde, on parle... voilà, on parle de la vie, des chemins de vie, d'amour peut-être. Non, ça sera une émission spéciale sur les dates. En attendant, je voudrais, pour clore le chapitre de l'aventure américaine, je voudrais, Gad, savoir, voilà, on vient d'évoquer effectivement ces 4 ou 5 années passées là-bas aux États-Unis, mais est-ce que les rois du stand-up, les Américains, comme Jerry Seinfeld, votre pendant américain, ou comme Trevor Noah, ou comme Chris Rock, est-ce qu'ils regardent de près ce qui se passe en France ?
Non.
Pas du tout.
Non. Ils ne connaissent absolument pas ce qui se fait en France.
Ils s'en foutent.
Ils sont intéressés une fois qu'ils rencontrent les gens, mais pour eux, c'est un tout petit pays, un petit marché, comme ils disent. Ils parlent de marché. Et ils ne sont pas très intéressés. Je dois dire qu'ils ne sont pas très curieux. En revanche, quand on tombe sur des mecs comme vous décrivez, ou même moins connus de stand-up, et que vous êtes un artiste de stand-up et que la connexion se fait, ils sont curieux, ils posent des questions. Mais naturellement, il n'y a pas une volonté de comprendre, de connaître ce qui se fait. Non. Pour être très honnête, ils ne sont pas curieux. Si vous dites à un humoriste américain, cite-moi le nom d'un humoriste français.
Incapable. Non, il dira Gad Elmaleh.
Peut-être qu'il dira. Mais peut-être, non, mais plus sérieusement, parce que j'ai joué là-bas, j'ai fait des talk shows. Mais sinon, ils ne font pas de recherche, quoi. Ils ne se disent pas.
Alors revenons à vous.
Cela dit, pour les acteurs, c'est la même chose.
Personnellement, oui, c'est vrai.
Voilà. Pour la télé aussi.
Peut-être
je pense.
Marion Cotillard.
Ah oui.
Et Dujardin.
Allez, oui.
Et Darcy.
Ah bah oui. Alors là.
Mais revenons à vous, Gad.
Tous en fait.
Voilà. Alors, avoir signé avec Netflix pour la diffusion de vos shows et d'une série originale diffusée dans les 189 pays où Netflix est implanté, bon, ça vous donne désormais une exposition absolument fabuleuse, mondiale, planétaire. D'ailleurs, vous avez joué 2 soirs de suite à l'Opéra de Dubaï, où
oui,
maintenant vous êtes connu partout, en anglais. C'est un phénomène quand même très très rare pour un humoriste, de quelque nationalité qu'il soit d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que le fait de faire le show en anglais, ça m'a ouvert les portes de territoires que j'aurais jamais pu imaginer faire en stand-up, en comique. J'ai joué à Copenhague, j'ai joué à Malmö, j'ai joué à Anvers. Jamais j'aurais cru que je jouerais là-bas. C'était vraiment génial. À Édimbourg, j'ai joué j'ai joué à Shanghai en anglais.
Bon, le rire universel existe ou pas ?
Oui, je pense que, en plus, quand tu racontes. Moi, je racontais l'histoire de ce que j'étais en train de faire. Donc, je racontais mes origines, je racontais la francophonie, je racontais le fait de faire le show en anglais. Donc, ça parlait à chaque personne qui venait là me voir, qu'il soit expat ou qu'il soit des locaux. Il y avait une vraie... Ils pouvaient s'identifier. Mais je dois dire qu'une fois que j'ai fait ça, j'en ai pas fait le tour. Hein, et puis c'est... Mais j'avais hâte de revenir. J'avais envie d'entrer en France, moi. J'avais envie de... Je me disais, je vais rentrer au show.
Gad Elmaleh, en 2014, vous déclariez au journal Le Monde, ce qui m'a toujours aidé et malmené à la fois, ce sont ces identités et ces langues qui me traversent. Être juif marocain, exposé à l'arabe, à l'hébreu, au français, à l'anglais.
Ouais.
En fait, j'ai jamais été tout à fait chez moi. Juif au Maroc, français au Canada, français aux États-Unis. Aujourd'hui, vous diriez quoi ?
Alors aujourd'hui, ça me convient très bien et encore mieux. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs, je pense à une chose très très belle qui s'est faite au Maroc récemment. Il y a eu des accords qui ont été signés de normalisation entre Israël et le Maroc. Et tous les gens éclairés au Maroc et ceux qui sont éclairés dans les différentes communautés sont contents et se réjouissent de ça. Ceux qui ne sont pas éclairés, quelle que soit la communauté et l'identité, je ne communique pas avec eux, je ne suis pas connecté à ça. Je suis vraiment dans une tradition de paix. Je viens d'un pays où les communautés, vraiment une tradition de paix, surtout au Maroc, entre les communautés. Donc je suis aujourd'hui, est-ce que c'est la maturité qui fait ça ? Je suis apaisé de ça, fier de ces langues qui parlent en moi, de ces identités qui parlent en moi. C'est vraiment super. Et j'essaie de transmettre ça à mes enfants.
Bah,
ça, c'est très, très important.
Ouais. Parce que je crois savoir qu'au départ, vous aviez en fait la tentation de changer de nom, remplacer en fait Elmaleh donc par l'anagramme. Et vous vouliez vous appeler Malheur, comme le nom
Malheur,
le compositeur autrichien de musique classique, magnifique, opéra, tout ça. Et puis, c'est un de vos profs au cours Florent qui vous en a dissuadé.
Ouais. Marc-Henri de Bucher, professeur en première année. Je vais le voir un jour, je lui dis... d'abord, je voulais m'appeler comme mon oncle qui avait changé de nom. Je voulais m'appeler Maleh, M-A-2-L-E-T. Je trouvais que c'était plus français. Il me dit, mais après, je voulais m'appeler Malheur, comme le compositeur M-A-H-L-E-R. Il me dit, mais t'es complètement fou. Il me dit, mais si tu t'appelles pas Elmaleh, si tu t'appelles Elmaleh, si tu fais ce que tu fais aujourd'hui et si t'es drôle, ça, c'est parce que tu t'appelles Elmaleh, c'est parce que tu viens de là où tu viens, c'est parce que... Et en fait, je l'ai pas fait pendant quelques années. Je me suis dit, c'est une erreur. Et après, je me suis dit, bah non, garde ton nom. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des gens qui me demandent si Gad Elmaleh, c'est un pseudonyme. Ben, je dis, ben non, si j'avais voulu prendre un pseudonyme, je m'appellerais Victor Laporte ou Jean Lafont. Mais non, c'est pas un pseudonyme. Personne ne prend comme pseudonyme
voilà,
Gad Elmaleh.
Voilà, mais en plus, on se demande bien aussi pourquoi vous auriez changé Gad, puisque c'est quand même franchement joli, ça veut dire chance en hébreu.
Ça veut dire chance, et mon nom, et ma mère elle m'a dit, mais c'est une... ma mère a dit un jour un truc terrible, c'est une bonne marque. C'est une bonne marque.
Incroyable.
Elle pense que je suis une marque. Bon, c'est ma mère.
Bon. Alors Gad Elmaleh, il y a 2 ans, donc après l'épopée américaine, vous êtes rentré en France, où on a pu vous applaudir dans une pièce de théâtre. Alors, il y avait plusieurs réseaux à ce retour, dont la première, bien sûr, et vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, le besoin de prendre dans vos bras, tous les jours, Raphaël, qui a 7 ans et qui voyait trop peu son papa. Quand vous dites, Gad Elmaleh, quand vous dites « la grand-mère de la maman de mon fils », c'est Grace Kelly. Vous réalisez que le destin, c'est un scénariste qui ne manque pas de fantaisie, lui non plus.
C'est vrai que si on te pitch ça, tu te dis, le scénariste, il en fait un peu trop, c'est pas crédible. Mais c'est ce qui fait vraiment sa singularité, sa richesse. Je suis très fier de ça. Je suis très, très content de ça. D'ailleurs, dans mon nouveau spectacle, j'en parle avec humour, sans jamais me moquer, parce que je suis reconnaissant aussi de tout ce que m'a donné cette famille et sa famille et de l'amour qu'on a. Mais je me moque plus de moi, en fait. L'homme à côté. Les Américains appellent ça le « underdog ». Nous, on appelle ça en rigolant le blédard ou l'homme qui est à côté. Je sais pas. Mais je me moque de moi, je me mets en dérision, je me mets à côté, que ce soit dans un univers monégasque, dans un univers américain, dans un univers bourgeois. Je suis toujours à côté, mais je garde ma base. Mais je parle du décalage pour faire rire.
Mais alors, juste avant de faire une très courte pause, Gad, et ça n'a franchement rien à voir avec la famille princière, mais si vous étiez resté à Monaco avec un rôle officiel, peut-être votre liberté d'artiste aurait-elle été entravée.
Mais j'aurais jamais eu de rôle, de toute façon. Enfin,
non, mais être artiste, c'est pouvoir se permettre le lâcher-prise absolu.
Mais moi, j'ai toujours été très libre, même là-bas.
Même là-bas.
Ah ouais, complètement. D'abord, parce que je n'avais pas de rôle, ni de fonction, ni de... Et puis, la maman de mon fils non plus. D'ailleurs, tout ce qu'elle organise et tout ce qu'elle fait aujourd'hui, qui est incroyable à Monaco, je pense aux rencontres philosophiques, voilà. Je pense à tout ce qu'elle dirige. C'est d'une liberté, d'une créativité absolue. Et non, moi, ça ne m'a jamais bloqué, au contraire. Mais vraiment, hein, vraiment. Et j'y vais encore, avec plaisir, avec bonheur. Je suis fier pour mon fiston. Non, je suis très content. Et d'ailleurs, je le précise, en passant, c'est un des seuls lieux au monde en ce moment où, en respectant la distanciation sociale, on donne des concerts de musique, des ballets et des shows d'humour.
Bien dit. En attendant, on se retrouve tout de suite avec Gad Elmaleh.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Gad Elmaleh, à quoi rêvez-vous aujourd'hui? L'album Hommage à Nougaro, Danser sur moi, est une parenthèse enchantée car il est très très bien accueilli. Mais est-ce que ça pourrait être en fait le jalon d'une nouvelle vie avec des shows d'entertainment pur comme le faisait par exemple dans les années 60 Sammy Davis Jr. ou Dean Martin, autant humoriste que crooner, parce que vous nous prouvez que, voilà, vous êtes autant humoriste que crooner.
Je vais vous le dire à quoi je rêve là, tout de suite,
ouais.
Que les salles de spectacle réouvrent le plus vite possible. Parce que justement, je pourrais faire ça, ces spectacles mêlés d'humour et de chansons. Mais pardon de revenir là-dessus, mais j'ai besoin que les salles réouvrent pour tout le métier. Il faut que ça réouvre le plus vite possible.
Le prochain spectacle, il a pour titre « D'ailleurs ».
D'ailleurs.
D'ailleurs. D'ailleurs comme donc, et d'ailleurs, venu d'ailleurs, ou rentré d'ailleurs.
Waouh, oula, les rencontres philosophiques sur Europa. En fait, d'ailleurs, c'est aussi une manière de dire « d'ailleurs ». Je ne vous ai pas dit aussi « d'ailleurs », j'aimerais vous dire. D'ailleurs, en revanche, attention, il faut que je vous explique. Il y a cet esprit-là.
Il sera fait de quoi, ce spectacle?
C'est mon spectacle, je pense, le plus intime.
Oui.
Peut-être même mon dernier, je ne sais pas. Non, on va pas faire des adieux. C'est les premiers adieux. Non, je sais pas. J'en sais rien.
Vous êtes sérieux là?
Non, mais après, ça y est. On va laisser les jeunes faire l'humour. Moi, je vais aller faire du cinéma. Non.
Bon, ça nous ira aussi. Ça nous ira très bien aussi. Avec le premier argent qui est tombé sérieusement sur votre compte en banque, vous n'avez pas acheté une voiture, mais un piano magnifique, un Steinway. Donc, il fallait bien qu'un jour, la musique émerge dans votre carrière. C'est fait. On a l'album dans les mains. Il a pour titre Danser sur moi. Mais est-ce qu'un jour, vous chanterez vos propres titres?
J'aimerais, peut-être que ça arrivera. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit ressenti, il faut que j'ai très envie de le faire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai envie d'une chose et que je la ressens profondément et que ma petite voix intérieure me dit fais-le, go. Alors oui, t'es critiqué, oui, t'es jalousé, oui, t'es... Mais j'ai lu un truc intéressant il y a quelques jours, c'est tu n'es jamais critiqué par celui qui fait plus ou mieux. tu es critiqué par celui qui fait rien ou moins bien. Donc vas-y, avance, t'as pas besoin d'eux.
Voilà, pas de souci. Alors maintenant, justement, que vous jouez partout dans le monde, Gad Elmaleh, grâce à l'exposition internationale que vous a permis, justement, Netflix, dites-nous, c'est petit ou c'est grand, la planète?
C'est tout petit. C'est tout petit quand on se rend compte que finalement, on fait rire avec des choses très simples, très humaines, très quotidiennes.
Communes à tous.
Ouais, et que l'observation, elle est la même. Et vraiment, vous pouvez faire rire un Marocain, un Hollandais, un Chinois, un Libanais, non pas avec la même chose, mais avec la chose qui est la plus proche de lui, à laquelle il peut s'identifier si elle est vraie.
Alors l'époque, elle n'est pas particulièrement propice à la projection, mais bon, pourtant j'aimerais savoir, dans 10 ans, qu'est-ce que Gad Elmaleh se promet d'avoir réussi? Vous aurez votre chaîne de télé ou votre propre plateforme comme Netflix, et puis vous produirez l'élite de l'humour ou de la chanson, ou vous produirez des films?
Ah non, déjà je me promets d'être vacciné, et au rythme où ça va, c'est pas sûr.
Voilà.
Et ensuite, peut-être que je ferai quelque chose qui sera, je pense, hein, alors là, je n'ai jamais répondu vraiment... comme ça, au feeling. Je serai un peu dans l'ombre. J'aimerais être dans l'ombre, réaliser des choses, des grandes choses, des choses fortes, des choses créatives, mais dans l'ombre. J'aimerais avoir une satisfaction de faire naître des talents, de regarder. Je pense que ça, c'est bien. Et ça, ça peut me donner une... Ça peut me ré... Je sais pas comment, j'ai pas le mot. Régénérer, revigorer,
On les prend tous.
Allez, c'est parti.
On les prend tous. Vous savez quoi? C'est euphorisant de passer une heure avec vous. L'album a pour titre « Danser sur moi ». Il est paru chez... Blue Note. Blue, voilà, comme
Blue
ses
Note.
Yeux.
Le label iconique de jazz. Total. Qui m'a fait rêver.
Voilà. Merci infiniment pour
merci.
Votre générosité.
C'est moi qui vous dis merci. Mais vraiment, j'ai passé un moment très, très, très agréable. Et puis, j'avais l'impression d'être... C'est marrant. Un peu chez la psy, un peu avec une amie. Je ne sais plus. Je vous dois combien?
C'était avec une amie. Je vous embrasse.
Merci.
Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre.
Europe 1.